Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit aujourd'hui Alexis Kayembe de Bampende. Il est conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure et avec lui, nous allons parler du projet Grand Inga, mais aussi de la question des infrastructures en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Alexis Kayembe de Bampende, bonjour.
Bonjour.
Merci de recevoir Radio Okapi dans vos bureaux pour parler de ce grand projet qui fait l'actualité, le projet Grand Inga. Pour les communs de mortels qui nous écoutent en ce moment et qui vous écoutent, vous conseillez spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, comment pouvez-vous présenter ce projet, le projet Grand Inga?
C'est un méga projet que je peux aujourd'hui qualifier avec des Congolais qui le comprennent tant mieux que moi, comme un projet méga, un projet intercontinental, puisque si vous voyez bien la capacité, le volume même d'investissement de ces projets. Donc c'est un projet qui est au-delà même de nos frontières, non seulement frontières congolaises et frontières même africaines. Le volume de ces projets qui est évalué aujourd'hui, en première phase, plus ou moins 40 milliards de dollars, qui peut aller jusqu'à 100 milliards. C'est un projet énorme pour tous les continents africains.
Oui, c'est un projet énorme pour le continent africain, pour la RDC, mais en termes de chiffres, méga-projet, on parle de 42 gigawatts, et c'est ça, vous confirmez?
Non, c'est plus que 42. 42 à 44, c'est la capacité aujourd'hui que notre grand Inga a pu générer. Mais il y a aussi la rivière Mpioka qui se déverse dans le fleuve du Congo. Vous avez aussi le site de Matadi, qui est tout près de la ville de Matadi. Donc, si vous prenez l'ensemble, on peut arriver minimum 70 000 mégawatts.
Alors, monsieur le conseiller, le chef de l'État a présenté l'entreprise, le groupe Rescue Metals, qui a gagné le marché et devra donc investir au moins 100 milliards de dollars américains. Comment ça s'est passé le marché? Est-ce que c'est un marché de gré à gré où il y avait eu appel d'offres comme le demande la procédure?
Je dois clarifier quelque chose ici. FMG n'était pas venu à Goma pour signer les contrats, ni avec le chef de l'État, ni avec qui que ce soit. Ils sont arrivés en RDC au mois de septembre 2020. Ils ont négocié avec nous, avec le gouvernement de la RDC. Ils ont été reçus par son Excellence le Premier ministre Professeur Ilunga. Et au cours de cette rencontre, il était décidé de signer MOU qu'on appelle le protocole d'accord. Le seul document que nos partenaires australiens ont signé avec la RDC, c'est le protocole d'accord, comme celui qui a été signé en 2018 avec les consortiums chinois avec la RDC et les Allemands avec RDC. Donc nous sommes au niveau des protocoles d'accord que toutes ces entités ont signé avec notre pays. C'est pas un contrat. Deuxième chose, si vous voyez bien les codes d'investissement congolais, je pense que des projets qui peuvent être préfinancés plus de 20% ou des projets qui sont au-delà de 1 milliard de dollars ne nécessitent pas nécessairement qu'il y ait un appel d'offres. Mais on peut obtenir, n'est-ce pas, l'avis favorable de la Direction générale des marchés publics. Dans ce cas précis, je pense que ce sera beaucoup plus de l'autorité de régulation des partenariats publics-privés qui sera dotée, n'est-ce pas, de donner l'avis favorable. Donc, c'est pas une situation d'un contrat de guerre encore, mais nous ne sommes pas dans l'illégalité puisque le volume lui-même d'investissement est au-delà de 1 milliard de dollars.
Et cet avis favorable de l'autorité de régulation de marché public, le gouvernement l'a obtenu.
Ça, c'est un processus. Pour l'obtenir, il faut avoir un contrat. Mais nous sommes aujourd'hui dans une phase de négociation d'un contrat final, ce qui est en cours. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un contrat, il faut que toutes les parties tombent d'accord. Et puis, le ministre de tutelle qui va faire la demande auprès de l'autorité de régulation de partenariat public-privé pour obtenir, n'est-ce pas, cet accord-là. Mais là, vous nous demandez d'acheter déjà la robe de mariage pendant qu'on n'a pas encore eu le feu vert des fiancés. voyez. Donc, MOU a été signé, nous permet à faire les études de faisabilité, nous permet d'être présent pour faire tout ce qui a été négocié dans le Memorandum of Understanding. Et au même moment, nous sommes en train maintenant de négocier un contrat. Il faut qu'il y ait maintenant un draft final qui sera présenté au chef de l'État avec le parfum des gagnants-gagnants, parce que ça a toujours été les premières conditions du président de la République. Tout contrat que la RDC doit signer avec des partenaires internationaux ou nationaux, ça doit être gagnant-gagnant. C'est plus le temps où les sociétés internationales arrivent, comme ce qui s'est passé dans le secteur minier, où la RDC reste comme une orpheline, quoi. Aujourd'hui, le pays a un interlocuteur qui parle pour son intérêt, c'est le président de la République.
Et puisque vous parlez des études de faisabilité, nous savons que le projet Grand Inga, on n'en parle pas aujourd'hui, donc depuis tous ces temps, vous n'avez pas trouvé dans les archives que vous a laissé l'administration précédente des études par rapport à Grand Inga, c'est ça?
Ben écoute, c'est depuis notre indépendance. Vous savez combien l'énergie est vraiment capitale pour développer notre pays. On doit mettre l'énergie dans tous les quatre coins de la RDC pour développer aussi des secteurs générateurs d'emplois, comme les secteurs miniers, comme les secteurs agricoles, forestiers et autres. Ça va nous aider aussi de mettre en place des infrastructures intégrées qui peuvent, n'est-ce pas, soutenir d'autres infrastructures productives, c'est très important. Et l'énergie reste toujours un facteur primordial en ce qui concerne l'enseignement, dans l'éducation, dans le secteur de santé. Nous avons besoin de ça. Et surtout aussi dans tout ce qui est utilisation domestique. Donc, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu encore des investisseurs sérieux et qui pouvaient respecter leurs engagements. Je pense que le temps est arrivé avec l'avènement de FMG. C'est un partenaire sérieux, comme le chef de l'État l'a inscrit. Donc, nous avons travaillé avec eux et ça fait presque 15 mois. Donc, les négociations avec eux préliminaires ont commencé au mois de février 2020. 7 mois après, ils ont signé le protocole d'accord, la convention, et nous sommes en train de négocier le contrat final. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait avec beaucoup de précipitation. Nous avons eu notre temps de faire du diligence avant de former les chefs de l'État, et nous avons vu ce qu'ils ont marqué sur place comme des gestes. Aujourd'hui, ils ont commencé déjà les études, ce qui est bien, et au même moment, prendre des contacts avec les communautés sociales, et ils sont en dernière reprise pour rencontrer tous les villages autour de Inga. Ils veulent commencer déjà à dépenser de l'argent pour finaliser des études complémentaires optimisées d'un côté, de l'autre côté, investir dans les infrastructures de première nécessité, tout ce qui est voie d'évacuation, tout ce qui est voie d'accès vers Inga et des ports, mettre en place plus ou moins $200 millions, $250 millions avant que les contrats finaux soient signés. C'est là ce qui nous montre aujourd'hui qu'ils sont sérieux. Comparativement aux autres partenaires qui étaient intéressés à Inga, ça fait déjà 3-4 ans ou depuis que les trucs ont été signés. Donc on n'a pas encore vu des gestes palpables sur le terrain. Donc vous savez bien que beaucoup d'entreprises viennent à la RDC pour signer des MOU, Memorandum of Understanding, protocole d'accord, même des contrats. Il faut aller au ministère des Transports, il faut aller au ministère des ITP. Vous allez voir, il y a pas mal de MOU qui ont été signés, qui n'ont jamais été exécutés. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et on ne peut pas prendre notre République en otage. Donc, on veut développer notre pays. On veut le développer avec l'énergie. Quand vous voyez les taux d'accès à l'énergie dans d'autres pays africains, nous restons toujours derrière tous les pays. Au Rwanda, c'est dans les 65 ou 70% d'accessibilité. Si vous voyez l'Algérie, c'est plus ou moins 85%. Et la RDC, c'est 5%. Voilà. Est-ce qu'il faut aujourd'hui rester croiser les bras jusqu'à ce qu'un investisseur X et Y, jusqu'à ce que lui-même trouve que le temps est arrivé pour venir investir? Non. Si nous avons quelqu'un qui arrive, qui a la capacité, nous sommes satisfaits de sa présentation, sa capacité technique et financière. En tant que pays, je pense qu'on doit prendre des décisions courageuses pour répondre aux aspirations du peuple.
Vous écoutez Radio Okapi, nous recevons aujourd'hui dans Grande Interview Monsieur Alexis Kayembe de Bampende. Il est le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure et nous parlons du projet Grand Inga. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Grand Inga est lié à l'actualité, mais dans l'actualité, je crois que vous avez suivi cette voix qui se levait du côté du Congo central pour dire non à la réalisation de ce projet qui détruirait les écosystèmes. Et c'est la voix de l'organisation Initiative pour le développement local IDEL en abrégé. Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne suis pas surpris. Dans tous les grands projets dans le monde, il y a toujours des gens qui protestent et il y en a aussi qui manifestent, n'est-ce pas, l'arrivée du projet. Donc nous aurons des situations pareilles tout au long de la construction de tous les process de construction des barrages Inga. Ce qui est important aujourd'hui, c'est maintenant que nous n'avons pas encore Inga, maintenant que nous n'avons pas encore de l'énergie massive dans notre pays, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est ça la question. Nous avons 5% du taux d'accès de la population à l'énergie. Qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui? Nous devons industrialiser notre pays. Les pays industrialisés aujourd'hui, prenez l'Allemagne. L'Allemagne produit combien? Plus de 450 000 mégawatts. Nous, la RDC, nous sommes plus ou moins 2200 mégawatts. C'est notre production totale du pays. Voilà. Vous avez la Chine qui vous produit 650 000 mégawatts, dont 350 000 qui viennent de l'énergie hydroélectricité. L'Afrique du Sud, ce qui est thermique et solaire, c'est 51 000. Donc, nous, en tant que pays, quatre fois plus que l'Afrique du Sud, donc on n'a pas raison aujourd'hui de ne pas profiter avec la capacité que nous avons aujourd'hui énergétique, les potentiels, pour développer des infrastructures énergétiques de grande envergure pour répondre aux besoins primordiaux de la population. La population a besoin d'emploi. Et pour avoir l'emploi aujourd'hui, il faut industrialiser les pays. Avec quoi? Nous avons des potentiels, c'est ce que j'appelle potentiel naturel, des ressources naturelles. Nous avons des richesses incroyables dans nos sous-sols. Mais pourquoi il n'y a pas aujourd'hui des investisseurs qui viennent dans plusieurs provinces? Puisqu'on n'a pas de l'énergie. Souvenez-vous, en 1973, si le marché Longoutou n'avait pas décidé d'investir avec l'aide de partenaires internationaux pour envoyer de l'énergie au Katanga. Prenons la situation où aujourd'hui Inga s'arrête et il n'y a pas même un mégawatt, même un kilowatt qui est envoyé au Katanga. Quel sera le secteur minier? Quel sera l'impact dans notre économie? Ça sera énorme. Pourquoi? Puisque le secteur minier, vous savez combien il contribue à notre budget national. Maintenant, vous pouvez réfléchir si nous répliquons la situation économique que nous avons au Grand Katanga, au Kasai, au Bandundu, au Maniema, Équateur, même au Congo central où il y a des cuivres, il y a de l'or, il y a pas mal de matières premières là-bas. C'est là où aujourd'hui on peut employer les gens. Si nous avons les entrepreneurs qui viennent, les investisseurs tant nationaux qu'internationaux qui seront intéressés, investir aussi dans tous ces secteurs-là. Donc vous pouvez déjà voir quel sera le taux d'emploi sur le sol congolais. Donc on doit voir grand. Hein? Si les pays développés que nous avons aujourd'hui dans le monde, je parle des pays africains, l'Égypte a plus ou moins 47 000 mégawatts. D'abord, ils veulent acheter. Hein? L'Afrique, ils veulent acheter notre énergie. C'est pour indécider leur pays. Donc, si nous ne le faisons pas, que puisqu'il y a telle association, je comprends bien. Mais moi, j'aimerais bien entrer en discussion avec eux, leur montrer tous les aboutissements de ces projets, les avantages. Je ne dis pas que c'est un projet parfait, pour qu'ils comprennent, puisque parfois, on décide, on parle mal, puisqu'on n'a pas d'informations. Donc, je ne les condamne pas, mais je pense qu'ils ont mes contacts, ils peuvent toujours m'écrire. Je suis prêt à les rencontrer, à les confronter, mais c'est pas pour leur expliquer des projets en général que c'est qu'aujourd'hui la RDC doit gagner.
Le projet Grand Inga, monsieur le conseiller, on n'en parle pas aujourd'hui, puisque le projet a commencé depuis l'administration, le régime qui a précédé l'actuel. Mais on sait qu'à un moment, il fallait le mettre en œuvre, mais la Banque mondiale, qui est l'un des partenaires financiers, s'était résignée à bloquer parce que on voulait placer ce projet sous la responsabilité directe du chef de l'État. Je veux citer Joseph Kabila, et c'est ce qui avait bloqué. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les partenaires financiers, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et même la Banque européenne d'investissement, les violons sont en train de s'accorder pour laisser la voie libre à la mise en œuvre de ce projet?
Bon, je pense qu'il faut faire une grande différence. Nous parlons aux différents régimes, aux différentes personnes et aux différents présidents qui ont ou qui avaient des différentes réputations. Ça, c'est une autre page qui est tournée. Ça, c'est une autre république dirigée par le président Tshisekedi qui a sa propre réputation, qui est aujourd'hui bien respectée, qui a aussi amené la RDC sur le plan international où nous sommes aujourd'hui respectés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au niveau des financements de ces projets, il n'a pas besoin de financement de la Banque mondiale ou Banque africaine de développement. Ça, c'est un projet 100% privé. Donc, c'est comme je vous dis, que l'investisseur lui-même devrait venir ici en RDC depuis longtemps. D'après ce qu'il a déclaré à Goma, il dit, d'abord je vous passerai même l'audio, que la raison principale qu'il a pour se devenir en RDC, il a trouvé que la RDC a un autre leadership, qu'il trouve que la leadership de président Tshisekedi lui donne des garanties. Le président Tshisekedi a commencé à lutter contre la corruption et que ça fait partie des corps de ses valeurs d'investissement, qu'il peut investir dans un pays où les leaders, ceux qui dirigent les pays, partagent la même vie, combattre la corruption, combattre tout ce qui est des violences contre les femmes, les enfants, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est ce qui l'a poussé à devenir. Donc, pour le moment, les préconditions de la Banque mondiale ou Banque africaine de développement, Banque européenne ou je ne sais pas quoi, ça ne nous intéresse pas tellement puisque l'investissement vient 100% des privés. Le président de la République, pour votre information, il est chef de l'exécutif. Donc, ce projet sera à un certain moment amené devant le Conseil des ministres pour en décider. Et c'est comme je vous dis, hein, c'est un projet énorme. Le président lui-même entend bien que ça doit être géré avec 100% de transparence. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en dessous de la table. C'est pas quelque chose qu'on doit exclure l'un ou bien l'autre. On essaie d'impliquer tout le monde, que tout le monde participe. Et ce qui est important, c'est à la fin de la journée, c'est avoir de l'énergie. C'est voir les barrages de Inga construits, barrages de Matadi, barrages de Pioca construits, que nous avons l'énergie, nous avons notre quote-part pour répondre aux besoins quotidiens des Congolais.
Et donc, l'Assemblée nationale, le Parlement a aussi donné son avis dans ceci?
Mais nous sommes encore phase 1 ou 2, voilà. C'est comme j'ai dit que si vous n'avez pas encore eu la fiancée, il ne faut pas demander le nom de belle-mère, d'accord? Voilà. Les gens sont allés plus pressés. Je vous informe que, en fait, l'annonce du chef de l'État, c'est pas quelque chose qu'on a créé ces jours-là. La convention avait été signée, ça fait déjà plus ou moins 9 mois. C'est depuis septembre, si je ne me trompe pas. C'est depuis le 16 septembre 2020. Le président a seulement donné son avis. Si tout le monde qui est venu avant FMG, et depuis que FMG est arrivé en RDC, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire. C'est pas comme une cérémonie qui a été faite pour qu'il signe un contrat. Non, c'est pas ça. Le contrat, nous sommes en train de négocier les drafts finales avec des partenaires, avec des experts congolais, avec quelques représentants des ministères, pour avoir un draft. C'est pas un contrat, un draft. C'est ce draft-là qui sera présenté au président de la République pour qu'il se rassure que ce draft représente bien sa vision, qui est de mettre RDC devant tout, que la RDC, dans chaque négociation avec des institutions internationales, avec des entreprises privées ou publiques internationales, que nous avons le parfum là des gagnants-gagnants. On n'est plus là à l'ère où on signe un contrat, c'est des petites miettes là pour la RDC. Non. Il a été clair à Colésie, il s'est plaint. Il n'a pas un autre message, que ça c'est un message pour les miniers, ça c'est pour ceux qui sont intéressés dans l'énergie, ça c'est pour télécom, non. Gagnant-gagnant, donc ça vient automatiquement. On n'a pas besoin de demander, le Saint-Esprit parle directement, que c'est ce que nous voulons pour notre pays.
Écoutez Radio Okapi, nous recevons aujourd'hui dans Grande Interview Monsieur Alexis Kayembe de Bampende. Il est le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure et nous parlons du projet Grand Inga. Alors nous allons terminer, Monsieur le conseiller, par l'actualité. Oui. Le chef de l'État et son homologue ougandais ont lancé une série de travaux d'infrastructure à l'est de la RDC. Les internautes et auditeurs de Radio Capi ont posé beaucoup de questions. Puisque le chef de l'État a dit c'était une initiative de Yoweri Museveni et il accède à cette initiative-là. Et finalement, les internautes de Radio Capi disent mais pourquoi Museveni doit venir financer les travaux d'infrastructure en République démocratique du Congo? Qui finance effectivement ces travaux-là?
Bon, moi je ne comprends pas, nous les Africains, en général c'est tous les Congolais, spécialement ces internautes-là. Si l'Allemagne finance un projet en RDC, si la France ou le Japon qui a financé d'abord la route des poids lourds, est-ce qu'ils se sont plaints? Nous sommes des Africains, vous savez qu'on ne choisit pas les voisins, on est bien d'accord. La RDC a besoin de construire au moins 20 000 kilomètres des routes asphaltées pour que les pays commencent à respirer, pour que les pays soient désenclavés. Il nous faut au moins 20 000 kilomètres. Les routes asphaltées. Aujourd'hui, les routes asphaltées que nous avons sur notre sol congolais, c'est pas moins de 7%. Donc, les gens qui vivent à l'est de la RDC, il faut poser cette question-là. Les gens là qui écrivent sur Internet, là, importe quoi, puisqu'ils sont, je ne sais pas, en Allemagne, ils sont, je ne sais pas, à Londres, tout ça là, ils vivent bien. Mais il faut voir les états des routes aujourd'hui à l'est. Ces provinces-là, victimes de la guerre injuste. Il faut voir les gens pour quitter Goma, pour arriver à Kisangani. C'est incroyable. Donc, les besoins sont énormes. Donc, si vous avez un pays voisin, que ce soit eux qui financent ou pas, pour faire la route, et cette route-là, nous, c'est l'Ouganda qui finance, mais c'est notre sol. Donc, vous allez voir que ce sont les mêmes gens-là qui critiquent, qui seront les premiers à prendre de ces routes-là pour aller en Ouganda ou aller à la frontière. Nous sommes dans la coopération. Si on peut faire la coopération avec les pays européens, est-ce que c'est mauvais pour faire cette coopération avec les pays voisins? Ce que moi je sais, c'est aujourd'hui, on dit que c'est l'Ouganda. En général, c'est pas l'Ouganda, c'est Hyein Bank derrière, pas Banque africaine, Afri-Exim Bank, d'après toutes mes notes que j'ai eues, qui va financer des projets dont la RDC amène aussi sa quote-part et l'Ouganda amène aussi sa quote-part. Mais on doit pacifier des pays. Pour les pacifier, il faut mettre les infrastructures pérennes qui vont permettre qu'il y ait une respiration économique pour désintéresser ceux qui se droguent pour prendre les armes et puis commencer à tuer les innocents. Donc, puisqu'ils n'ont pas d'autre chose, voilà. Donc économiser, c'est important, mais il faut qu'il y ait des infrastructures entre ce que vous venez de voir là. J'ai parlé avec les députés nationaux, j'ai parlé avec des gouverneurs, il y a 3-4 mois, tout le monde m'appelait, tout le monde était avec l'ancien ministre des ITP, VPM, Lingopos, et qui voudrait que cette route-là soit construite la plus vite possible, que ce soit même les évêques. Donc, ce que le président de la République est allé, c'est pour que quelque chose se concrétise. C'est vraiment important que nous avons des routes. S'il y a des pays voisins qui ont besoin de financer des projets, on finance ensemble. C'est pas où la RDCRS, non. L'Ouganda va mettre une partie, et la RDC aussi une partie égale, ce qui est le down payment, hein, et le reste des projets sera financé par Afrexim Bank.
Radio Okapi a peut-être la chance de vous avoir, monsieur le conseiller spécial chef de l'État, en matière d'infrastructure. Les échos qui nous viennent de l'arrière-pays sont les mêmes partout, il n'y a pas de route. Les routes principales comme les routes des dessertes agricoles, je pense que dans votre agenda, tous ces échos occupent une place de choix que vous présentez au chef de l'État.
Le chef de l'État est au courant de l'état dans lequel il a pu, quand il est arrivé au pouvoir. Tout le monde sait que c'est vraiment un grand challenge. Hein. C'est un défi aujourd'hui auquel tout le monde est appelé à participer. Donc, on ne construit pas un village dans un jour. Depuis l'indépendance de notre pays, que ce soit président Mobutu ou bien les deux Kabila, donc je ne pense pas qu'ils ont fait pas beaucoup de choses en matière d'infrastructures routières. La plupart des routes que nous avons aujourd'hui, ce sont des routes qui étaient laissées par l'État belge, si vous voulez bien, les colonisateurs. Mais le besoin est là. Et ce qui est important, c'est la volonté est là. Le chef se déplace en entreprise à l'étranger pour rencontrer les investisseurs. Il y en a qui croyaient qu'il se déplaçait en vain. Aujourd'hui, nous avons un grand investisseur qui arrive dans le pays. Et ça va d'abord ouvrir aussi la porte aux investisseurs réels. Hein, ceux qui disent que voilà, de la RDC, nous sommes 182e, 183e des rangs de doing business. Mais avec un grand investissement comme celui de FMG, ouvre déjà la porte et donne déjà un message très fort. Les routes, nous allons le faire. Que ce soit chemin de fer, que ce soit les aéroports. Bon, je ne dis pas qu'on va le faire dans 24 heures, mais c'est un travail, puisque derrière, cette bonne réputation de la RTC qui revient sur la carte internationale, sous le leadership de son Excellence président Tshisekedi, ouvre déjà toutes les grandes portes là, les gens qui étaient pessimistes pour la RTC, et ouvre le temps intérieur pour qu'ils interviennent. Donc, on a une économie qui est beaucoup plus l'économie de libre entreprise, où aujourd'hui, vous pouvez venir à la RDC, vous voulez investir dans tout ce qui est énergie, vous pouvez avoir la licence de générer de l'énergie, de les transporter, de les distribuer, vous pouvez faire des routes avec le modèle économique BOT. Tout est là. C'est pas seulement l'État qui sera présent partout dans tous les secteurs, mais le secteur privé reste aussi un grand player pour ce projet. Donc les routes, yes, on va en construire soit par l'État, soit par les partenaires privés. Il faut qu'il y ait la patience. Tout est prioritaire. Vous savez très bien l'état dans lequel on a trouvé le pays, mais ce qui est important, les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas tous les jours. Il faut bien que le Congo soit compétitif sur le plan international.
Peut-être un mot de la fin à ces millions d'auditeurs qui vous écoutent.
Bon, écoute, c'est moi qui dois vous remercier pour m'avoir invité. Je demande seulement au peuple congolais d'être patient, et d'être présent. Je suis content qu'ils sont curieux de voir ce que les gouvernants sont en train de faire, mais qu'ils participent aussi. Il ne faut pas prendre l'État comme la poubelle. Est-ce qu'on a toujours cette mentalité-là? Non, biloko ya l'État. C'est pour l'État. L'État, c'est nous. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, soutenir les actions du gouvernement, être derrière l'État, de façon que on soit bien gouverné. Voilà.
Alexis Kayembe de Bampende, conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Radio Okapi à ces questions dans grande interview. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Alexis Kayembe Bampende, conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Cette émission, Grande interview, était supervisée par Alain Irung. La coordination est de Michel Kifindangoy. Et à la présentation, je suis Daniel Tambinzoni. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.